Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine avec Olivier et son équipe. Nous prenons le relais ce soir pour vous accompagner jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne que nous souhaitons la plus positive possible. À ce propos, j'aimerais revenir sur un exercice que j'ai proposé la semaine dernière à Marie. Marie qui souffrait d'une hypersensibilité. Vous m'avez posé beaucoup de questions à la suite de cette émission, alors je vais prendre un instant pour vous expliquer peut-être plus clairement en quoi ça consiste. À chaque fois que vous ressentez une émotion, une pensée, une sensation désagréable ou négative, c'est comme si tout se déséquilibrait en vous et que vous penchiez dangereusement du côté où vous allez tomber. L'une des premières choses à faire, c'est de contrer ces émotions, ces pensées, ces sensations désagréables en vous affirmant à vous-même certaines phrases. Exemple, je décide de lâcher la peur, l'anxiété, la colère, même si je ne sais pas encore comment. Ou alors, je choisis de respirer à travers cette émotion difficile, même si ça reste un peu compliqué pour l'instant, etc., etc. À vous de créer vos propres phrases pour reprendre le contrôle, calmer votre mental et commencer à retrouver l'équilibre plutôt que de vous laisser emporter par les flots négatifs. Autre technique, quand rien ne va plus, appelez la libre antenne pour vider votre sac. Venir nous parler de votre vie, de ce qui vous fait mal. Venez aussi nous parler, si vous le souhaitez, des épreuves que vous avez surmontées, c'est toujours intéressant. Un seul numéro de téléphone, 3921. Nicolas est au bout du fil pour vous accueillir et vous guider jusqu'à moi. Et puis vous savez que la Libre Antenne est une émission interactive. Vous pouvez donc à tout moment intervenir par SMS, réagir à ce qui se dit, proposer une solution, simplement apporter un soutien, un mot gentil à celui ou celle qui à ceux qui témoignent. Pour ça, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Enfin, nous restons en contact aussi par mail, Libre Antenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr ou sur ma page Facebook Sabine Marin. C'est Julien Blanc qui réalise cette émission.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Cette émission qui commence avec Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Sabine.
Mathieu que je suis ravie de retrouver car nous nous étions parlé il y a quelques mois.
Oui, c'était il y a 3 mois, je crois, c'était au mois de mai ou juin.
Alors est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît Mathieu, nous résumer un petit peu votre histoire qui était très touchante?
J'avais appelé il y a quelques mois parce que j'allais pas très bien, parce qu'on avait, mon mari et moi, entamé une procédure pour adopter notre deuxième fils. Mmh. Et à cause du Covid, ça n'avançait pas. Donc on avait, en fait, toute la procédure était pratiquement finalisée. Et puis, donc on avait eu la photo de notre loulou. Et puis on pouvait pas aller le chercher, on était un peu coincé ici.
Redis-moi, dans quel pays il vous attendait?
C'est en Afrique du Sud.
Oui.
Et donc, on ne pouvait pas partir parce qu'on était... En fait, on fonctionnait toujours à contrario par rapport à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que quand ici, les mesures Covid s'assouplissaient parce que ça allait mieux, bah, ça repartait là-bas. Mmh. Donc, en fait, on était vraiment au contraire. Donc, ça veut dire que ça bloquait pas mal. Et oui, on avait quand même attendu 15 mois pour pouvoir aller le chercher. Et donc, ouais, je vous avais appelé, ouais, je crois que c'était en fin mai, début juin, où j'étais un peu désespéré. Parce qu'en me posant la question, est-ce que ça va pouvoir se faire?
C'est ça, je me souviens que vous m'aviez dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'attacher à un petit garçon qu'on ne verra jamais, quoi?
Ben oui, c'est vraiment... Non, c'était vraiment quelques mois difficiles, hein, pour toute la famille.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais, oui, parce qu'il y a le grand frère qui l'attendait aussi.
Oui, bon, lui, il a 5 ans, donc il réalise pas trop, lui, il suit un peu le mouvement. Il voyait que nous, on était concernés par la chose et qu'on était très inquiets. Mmh. Ça, lui, il l'a ressenti tout de suite, hein, ça, c'est clair, et il a réagi en conséquence. Hein, mais bon, ce que ça voulait dire concrètement, il réalise pas encore.
Oui, bien sûr, mais comme vous dites, rien que vos émotions, il les a absorbées.
Oh, ça, c'est ça. Enfin, on est la preuve vivante que les enfants sont des véritables éponges.
Oui. Alors, racontez-nous la suite, Mathieu, s'il vous plaît.
Bah, alors, quelques semaines après vous avoir contacté, On est passé par toutes les émotions possibles et imaginables. Je pense qu'on nous a, vraiment pas épargné hein, sur ce coup-là. Mmh. Donc par le menu, je vais vous expliquer. Donc je vous appelle. On est vraiment au 36e dessous. Quelques semaines plus tard, on va dire 2-3 semaines plus tard, on nous contacte, donc la directrice de l'association ici au Luxembourg nous contacte en disant écoutez, là-bas ça repart comme jamais, en fait ils n'ont jamais eu autant
de cas,
donc ça explose. On nous a dit voilà, c'est fini, faut pas s'attendre, donc pour les 2 prochains mois il se passera rien. Mmh. On ne pourrait pas y aller. Bon, d'accord. On a pris notre parti, hein. On n'avait pas vraiment le choix. Sauf que 3 jours plus tard, elle nous appelle en disant « Les garçons, on a une date. Vous partez dans 3 semaines. »
Ou l'ascenseur émotionnel, dites-moi.
Bon, je me rappelle, c'était le 23 juin au matin, on était au petit-déj. Donc, comme c'est la fête nationale ici, au Luxembourg, on ne travaillait pas, donc on était à la maison. Donc elle nous appelle en disant voilà, contre toute attente, on a la date. Donc bon, voilà, bien. Donc on réalise. Hein. Mes beaux-parents étaient là, donc forcément on était vraiment tous fous de joie. Et c'était très très inattendu.
Mais une date qui était à quel délai à peu près?
Il fallait qu'on y soit pour le 15 juillet. Donc ça veut dire 3 semaines plus tard.
3 semaines, oui, c'est ça.
3 semaines plus tard. Donc voilà, émotion, le lendemain matin, on réserve les billets d'avion, parce qu'on y va en avion, et à peine, mais je vous promets, 5 minutes après qu'on ait réservé les billets d'avion, il y a cette dame de l'association qui nous appelle en disant « Les garçons, stop et tout. »
Oh non.
« On ne sait pas ce qui va se passer. » On ne sait pas, le président sud-africain va prendre la parole maintenant ce soir et vu qu'il n'y a jamais eu autant de cas, il risque de fermer les frontières.
Mais donc vous ne pourrez pas y aller. C'est un cauchemar.
Donc on s'était dit, mais c'est pas possible en fait.
La question que je me pose, c'est qui vous avez dans l'intervalle donné une date?
C'était la juge.
Oui, elle n'a pas tenu compte de la situation sanitaire?
Faut croire que non, parce que c'était... Je ne sais pas. Franchement, c'était donc nous, on a eu cette date, donc ouais. Il fallait qu'on y soit le 15 juillet parce que la procédure commençait pour un jugement le 27.
Eh oui, mais elle s'est fait emballer, cette dame. Hein.
Et donc, on était là, tout content. Non, mais vous imaginez l'ascenseur émotionnel. Enfin, à nouveau, on s'est dit, finalement, nous, on était là, on avait réservé les billets, hein. Donc ouais. On les avait. On a dit qu'est-ce qu'on fait? On les annule, on n'annule pas. Au final, on n'a pas annulé. Le président sud-africain a pris la parole, où vraiment ils ont fermé les écoles, les emplois habituels. En fait, tout est fermé.
Ouais, tout ce qu'on a vécu nous avant, quoi.
Exactement. Ouais. Sauf que eux, c'était vraiment pire. Enfin, eux, ça a explosé. Hein. Et donc, on est là en disant, mais voilà, il n'a pas parlé des frontières. Les frontières, ça n'a jamais été abordé, en fait. Il a dit, on fait un point dans 15 jours. Dans 15 jours, on voit ce qui est. Le 15 jours, c'était le dimanche 11.
Ça vous amenait, c'est ce que j'allais dire, ça vous amenait à 4-5 jours avant la date, quoi.
Ça nous ramenait à la veille du départ. Oui. Donc, vous imaginez, je pense qu'on n'a pas dormi pendant 15 jours.
Oh là là.
Parce que,
vous auriez dû me rappeler à ce moment-là.
Je pense qu'on n'était pas partis en vacances à ce moment-là. Donc finalement, le 11 au soir, on a su que le 13 à 5 heures du matin, on était dans l'avion. Puisque finalement, bon,
Vous avez su, j'espère.
On a su le 11 au soir que le 13 on pouvait partir.
Ouais. Eh ben.
Donc, c'était un peu le branle-bas de combat. Hein.
En espérant que le 12, ils n'allaient pas vous rappeler?
Parce que c'était un flou total. C'était vraiment un flou total parce que notre cas était tellement spécifique que personne n'y avait pensé, en fait. parce que donc les aéroports internationaux étaient fermés, sauf certains, et vous pouviez rentrer dans le pays à certaines conditions. Mais nous, l'adoption, c'est pas quelque chose qui est envisageable, puisque c'est, je pense qu'on était les seuls au monde à être dans ce cas-là. On a appelé les ambassades, on a appelé les compagnies aériennes pour savoir est-ce que on peut rentrer sur ce pays, dans l'avion on rentre, mais est-ce qu'ils nous laisseront rentrer dans le pays?
C'est ça. Et puis une fois sur place, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on circule avec l'enfant?
Alors ça, c'était là, on était parce que le Luxembourg est en contact avec une association là-bas qui ils nous ont pris en charge.
D'accord.
On a été pris en charge, donc on avait un logement, on avait un appartement qui a été loué pour nous, donc on avait où loger en fait.
Pas de quarantaine imposée?
Non, pas de quarantaine parce qu'on était vaccinés.
Ah.
Donc au final, donc on avait un peu d'appréhension pour à l'entrée sur le territoire, mais ça s'est très bien passé. Au niveau de la douane, ils n'ont pas vraiment posé de questions, hein. Ils nous ont demander du papier, des documents qu'on devait leur fournir. Bon, voilà. Puis on est rentré. On était là. Donc on arrive. Et il est le 13 au soir. On atterrit. Je crois qu'il doit être 22h en plein couvre-feu. Donc voilà. Donc on arrive tranquillement. On est accueilli par la dame qui tient l'auberge dans laquelle on va séjourner pendant un bout de temps.
Pardon, mais que tous les deux, vous aviez amené le petit et le premier?
Non, on avait amené le premier.
Ah, oui. D'accord.
Oui, oui, on ne pouvait pas laisser le pauvre. Et puis déjà, on ne l'aurait pas fait. Mais non, il a fait partie de...
De l'aventure.
Ah oui, oui, oula, oui, heureusement d'ailleurs. Mais donc on arrive là et puis on appelle nos parents pour dire qu'on est arrivé. Mes parents qui sont en panique. Parce que à ce moment-là, il y a des émeutes dans Johannesburg qui ont éclaté ce jour-là. Parce qu'il y a eu plein de problèmes politiques dans lesquels j'entrerai pas. Donc, qui ont éclaté ce jour-là. Donc, il y a une partie de la ville qui est en feu. Dramatique. Ma mère en panique.
C'est un feuilleton, votre histoire.
Hein. Ah, mais c'est impressionnant. Et nous, on n'a rien vu en fait, parce qu'on était dans les hauteur, donc on était parti nord-est de la ville, dans un quartier un peu huppé, donc ça veut dire que les émeutes, on les a jamais vues. On n'était même pas au courant, puisque dans un avion, vous êtes complètement coupé du monde, finalement. Donc nous, on n'était pas au courant, et on arrive, ma mère limite en pleurs, en disant « faites attention à vous ». Voilà, donc on arrive comme ça.
Youpi.
Ah ouais, c'était bon, voilà, dans un appartement bien, mais on est quand même en plein milieu de l'hiver, où la dame chez qui on a logé en disant qu'ils n'ont jamais eu un hiver aussi rude, puisqu'ils n'ont pas de chauffage central, ils n'ont pas de double vitrage. Donc on est arrivé, il faisait moins 5.
Ah oui.
Je pense que j'ai passé aussi la pire nuit de ma vie.
Ah, puis avec un enfant en plus.
Là pour l'instant on n'avait que le grand, donc il a 5 ans, ouais. Donc lui ça le faisait plus rire qu'autre chose, fort heureusement, mais pour nous on était crevés déjà moralement, on était aussi crevés physiquement. On arrive dans un endroit où il n'y a aucun chauffage, il fait moins 5, on a 18 couvertures, j'ai dormi en jean et en manteau. Donc voilà, ça c'était notre arrivée. Voilà.
Eh ben, dis donc. Enfin, j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup d'excitation et de bonheur qui compensait un peu tout ça, quoi.
Je vous avoue que ça, à ce moment-là, on n'y a pas pensé. Hein. C'était juste.
C'est sûr. Mathieu, je vous propose qu'on fasse une courte pause, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et j'attends la suite avec impatience. Ne bougez pas.
Merci.
Merci à vous. À tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Mathieu, vous racontez tellement bien que je vis l'histoire avec vous et j'ai froid maintenant dans votre chambre. Là.
On est rentré là maintenant depuis, donc ça va.
Bon.
Là, on est... ouais.
Donc là, ça commence comme ça la première nuit.
Oui, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe en fait. Et là, on, le lendemain matin, on se remémore un peu toute la procédure depuis le début. On s'est dit, mais c'est pas possible, ils vont quand même, à un moment donné, ils vont quand même nous laisser tranquilles.
C'est ce qu'on appelle des vents contraires.
Hein. Ah, c'est... Et puis, bon, je suis un peu superstitieux sur les bords. Donc, je me suis dit, mon Dieu, ça présage quand même pas rien de bon pour la suite. Mmh. Donc voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on se réveille le 14 au matin. Et puis, après, la procédure s'enclenche, donc on a quand même, parce qu'on est là pour un but bien précis quand même. Donc, il faut qu'on aille dans les locaux de cette association parce que c'est avec eux qu'on travaille. Et donc, il y a quand même une foultitude de papiers à signer. Mm-hmm. Donc, on va dans les locaux à Johannesburg, on rencontre les gens avec lesquels on va travailler pendant le temps où on sera là-bas, parce qu'il y a des assistantes sociales, des psychologues, il y a la directrice, enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes, on est vraiment très bien entouré là-bas.
Mais attendez, tout ça se fait avant la rencontre avec le petit ?
Oui.
Ah oui.
Parce qu'il y a de l'administration, et puis après, il faut quand même qu'on soit briefé un peu. Donc, en fait, ça se passe le lendemain, donc le surlendemain, parce que on a commencé le 15. Donc, le 15 au matin, on va dans les locaux de cette association-là, où on rencontre les gens. Et puis après, c'est eux qui nous emmènent directement à l'orphelinat.
Ouais. Moi, j'aurais été folle d'impatience de le rencontrer. Hein.
Oui, maintenant, à froid, oui, quand on est dedans, en fait, on est tellement pris
dans le tourbillon.
Voilà, et puis, oui, c'est vrai.
De toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut faire les choses comme on vous demande de les faire, évidemment.
Oui, et puis, les gens sont très gentils, donc c'est quand même très convivial. Hein. Les Sud-Africains sont vraiment des gens extrêmement chaleureux, vraiment. Je pense qu'on n'a jamais rencontré une personne qui a été malveillante ou ne serait-ce que méchante.
Oui, tant mieux.
Et vraiment, on a rencontré des gens là-bas, notamment la personne chez qui on a dormi. On avait une guide aussi qui nous a un peu menés à travers Johannesburg. Et c'est vraiment des personnes qui resteront et dans nos cœurs et dans nos vies, parce qu'elles ont été tellement adorables.
Ils n'ont pas de chauffage à l'extérieur, mais ils ont le cœur chaud.
Ah, mais c'est vraiment ça. Et puis, bon, oui. Surtout que bon, deux hommes avec deux enfants noirs, on ne passe pas inaperçu. Hein. Même là-bas. Donc, on nous a arrêtés dans la rue pour demander ce que notre parcours de vie, ce qui se passait, et pourquoi et comment. Et voilà. Donc, oui.
D'accord.
Et donc, le premier jour, on rencontre. Le deuxième, hein. ça a fait clic, hein. Tout de suite.
C'est vrai?
Alors moi, ça avait déjà fait clic la première fois quand j'avais vu la photo.
Oui, mais il avait beaucoup grandi, j'imagine, depuis la photo.
Il avait beaucoup grandi, mais on avait vu des photos depuis. Ouais. On n'avait pas beaucoup changé. Il nous a vus et il s'est collé à nous. Et il nous a pu lâcher.
C'est fou, ça.
C'est impressionnant. Alors, ils ont fait un travail fantastique. Ils ont fait un travail de préparation qui vaut tout l'or du monde parce qu'il a vraiment été extrêmement bien préparé. Ça veut dire que quand on est arrivé, tout le monde savait qui on était.
Quel âge il avait à ce moment-là ?
Il avait 23 mois.
Donc, il ne parlait pas encore ? Babillé, quoi.
Ouais, oui, des mots. Enfin, en tout cas, c'est très bien de se faire comprendre. Il a un sacré grec, quand même. C'est sympa.
Ça occupe.
Oui. On ne s'ennuyait pas avant, mais là, on s'ennuie encore moins. Non, mais oui. En fait, on est arrivé. Il s'est tout de suite glissé à nous, vraiment. Et il hurlait le soir quand on partait, parce qu'en fait, on avait la procédure, c'est 3 jours. Nous, on vient à l'orphelinat.
Oui.
Et le quatrième jour, on l'emmène.
D'accord.
Voilà, grosso modo, comment ça se passe. Donc, pendant 3 jours, on est venu, on a passé des journées là-bas. Et puis, il était avec nous tout le temps. Donc, en fait, on était un petit peu à part. Mais avec il avait la possibilité à n'importe quel moment de retourner voir les enfants et de revoir les...
D'accord, c'est-à-dire qu'il ne vous laissait pas sortir de l'orphelinat.
En fait, c'était une grande ferme, si vous voulez, avec un énorme extérieur, avec des aires de jeu un petit peu partout. Nous, on était plutôt côté extérieur, puisque pendant la journée, il faisait, euh, il faisait une vingtaine de degrés, donc ça, c'est très agréable. Donc nous, on était plutôt à l'extérieur sur les aires de jeu, où ils jouaient, où les deux frères jouaient ensemble, mais à tout moment, donc, la maison avec les enfants était à, allez, on va dire, à même pas 100 mètres, donc ils pas pouvaient loin. Y retourner.
Il ouais. avait ses repères. Avait... Et dites-moi, vous m'avez ouais. dit que ça a matché entre vous tout de suite, mais avec son frère, comment ça s'est passé?
Bien. Alors, tant qu'on était à l'orphelinat, très bien. Après, quand on est rentré chez, donc quand on l'a emmené chez nous, très vite, des signes de jalousie se sont fait quand même ressentir. Hein. Mais de part et d'autre.
Ah oui.
Ça veut dire que, oui, le grand est jaloux parce que maintenant, il doit diviser le temps de ses papas, hein, et ça, c'est pas facile. Le petit est maintenant relativement jaloux parce que le grand a le droit de faire des choses que lui n'a pas encore le droit de faire.
Oui, ce qui ressemble à une fratrie très classique.
Oui, mais ça se passe dans l'ensemble très bien. Ils sont extrêmement complices malgré tout. Mmh. Oui, je pense que nous, on va pas tarder à en pâtir très sévèrement parce que oui, hein, c'est.
Ils vont être vraiment complices là.
quand il faut, oui, hein, c'est bien sympa de se liguer contre les parents quand même un peu. voilà, c'est logique. Mais non, c'est. Comment vous dire ? Je pense qu'il n'y a pas... C'est un développement normal entre frères. En fait.
D'accord. Donc là-bas, vous passez donc les trois premiers jours complets ensemble, tous les quatre, mais le soir, vous laissez le petit.
C'est ça.
Ça ne doit pas être facile.
Bah,
pour lui ?
Pour lui, non. Pour lui, il hurlait, en fait.
Oui.
La première fois, quand on est parti, il a vraiment pas apprécié. Il a vraiment pleuré. Bon, c'est un colérique, hein, dans l'ensemble, mais il était vraiment pas content. Les deux autres jours, en fait, on a attendu qu'il s'endorme pendant la sieste, et on partait à ce moment-là.
Ouf.
Tout en lui disant quand même qu'on
revenait. Ah oui, quand même, vous l'avez dit.
Ah oui, non, bien sûr, oui.
C'est pas évident pour un enfant abandonné.
C'est ça, mais après, il a donc. Le jour où on est allé le chercher, vous avez organisé une petite fête pour lui dire au revoir. Donc on a participé à la fête et puis après on est parti. Il a eu un tout petit peu peur quand on est rentré dans la voiture.
Il a compris qu'il y avait quelque chose de définitif qui se jouait.
C'est bizarre ce qu'il a eu parce que donc on n'était pas encore dans la voiture. Donc, moi je l'avais dans les bras et je l'ai installé dans son siège bébé. Et là, quand il est rentré dans la voiture, là, il a vraiment, vraiment eu peur et il a crié. Mais quand il a vu qu'on s'installait tous dans la voiture, là, il a arrêté net.
D'accord.
En fait. Donc, ouais, et puis après, l'engrenage se met en route. Donc, il est bombardé vraiment littéralement dans cet appartement dans lequel on vivait pendant quelques jours. Oui, une tornade. Vraiment, une tornade. Je pense qu'il a ouvert tous les placards 27 fois. Il a touché absolument à tout ce qui a été possible et imaginable en 27 minutes de temps.
Ça devait être une sacrée découverte pour lui. Hein.
Donc on s'est dit, ouf. Donc on était là un peu dévité. Parce que bon, on était on régnait un peu en maître parce qu'on s'est dit, ouais, on en a eu un, on sait comment ça marche.
Il n'y en a jamais deux pareils.
Oh là là, c'est impressionnant.
Même quand ce n'est pas de l'adoption, vous savez.
Ouf, parce qu'on s'est dit, mais parce que, bien sûr, forcément, on recrée ce qui a fait fonctionner pour le premier.
Et ça ne marche pas.
Et il n'y a rien qui fonctionne, mais rien.
Oui. Donc, et on n'a pas le mode d'emploi et on met tous les compteurs à zéro.
Aïe. Donc on s'est regardé quand même avec mon mari, on s'est dit oui, qu'est-ce que c'est que ça ?
Comment il marche celui-là ?
C'est au début ça a été compliqué hein, parce que mais c'est aussi en partie notre faute parce qu'on était trop dans la place, si vous voulez. On était trop sûr de nous, on disait ça a bien marché pour le premier, pour le deuxième, il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Hein. Donc, les premières nuits ont été très, très difficiles. Mm. Les premiers jours ont été très, très difficiles aussi, autant pour lui que pour nous.
Et puis, je me demande aussi quand même si ce contexte particulier, cette longue attente, ça n'a pas été comme un relâchement d'un coup pour tout le monde.
Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il avait fait une chose qu'il ne faut pas faire. On compare, forcément, puisque c'est les procédures sont relativement similaires entre le premier et le deuxième. On compare. Ils ont quand même 6 mois d'écart au moment de l'adoption. Donc, le premier avait 17 mois. Le deuxième en avait 23. Et c'est énorme au niveau de l'évolution à cet âge-là.
Il y a le fait que vous n'avez pas vécu toute cette ascenseur émotionnelle avec le premier dont vous parliez.
Oui, c'est ça.
Et qu'il y a aussi de votre côté, il peut y avoir une sorte de... C'est comme un baby blues finalement, presque.
Oui, je ne parlerai pas de baby blues, mais c'est juste, il a fallu...
Tout qui relâche, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pas encore relâché, parce que là, on n'a pas encore eu le moment, puisque ça fait 3 semaines qu'on est rentré seulement.
Oui, c'est tout frais. Il y a encore une tension pour tout le monde.
Voilà. Il y a là. Mais faut dire quand même que il s'acclimate à une rapidité, mais c'est impressionnant. Il fait vraiment des efforts, entre guillemets, au quotidien. C'est impressionnant.
Qu'est-ce que vous appelez des efforts pour un enfant de cet âge-là, par exemple ?
Des efforts d'adaptation, ça veut dire qu'il commence maintenant vraiment aussi à voir comment nous on fonctionne, parce qu'au début, comme je vous dis, c'était vraiment une tornade. Donc il criait, il parlait extrêmement fort, il touchait à tout, il restait pas en place. C'était exténuant pour nous, puisqu'il y avait vraiment pas une minute de répit. Là, maintenant, il est quand même toujours très touche à tout. Ça, à mon avis, c'est une question de caractère plus qu'autre chose. Il touche à tout, mais il est quand même beaucoup plus serein, plus calme.
D'accord.
Déjà, il fait ses nuits. C'est déjà un grand plus pour nous. Il fait ses nuits depuis qu'on est arrivé ici, depuis qu'on est au Luxembourg.
Ouais. Oui, c'est un temps d'adaptation normal. J'étais en train de penser, vous allez le mettre en crèche un petit peu pour qu'il s'ouvre, qu'il se prépare à la maternelle, ou ça ne fonctionne pas comme
non.
ça chez vous ?
On a la chance au Luxembourg d'avoir des congés parentaux qui durent 6 mois chacun.
D'accord.
Donc on va, vu comment ça se goupille, parce qu'il y a les vacances, machin, un ou deux va rester à la maison, il y aura toujours quelqu'un avec lui jusqu'en septembre 2023. Normalement.
Mmh. Après, donc, entrer en maternelle, oui, après.
Oui. On avait fait ça pour le premier, déjà. Et ça se passe bien.
Hein.
Ouais. Oui. Les premiers temps sont un peu difficiles quand il est rentré à l'école l'année dernière. Il était un peu timide. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais oui, il y avait un temps d'adaptation qui était relativement long. On ne sait pas. Bon, après, il va quand même chez les parents, donc les grands-parents. Mmh. Alors, le petit, pas encore. Là, c'est uniquement avec nous, au moins encore pendant, au moins jusqu'à Noël. Hein. C'est ça.
Comment s'est passée la rencontre avec les grands-parents ?
Très bien, ils étaient tous venus nous attendre à l'aéroport.
Donc, j'imagine l'émotion.
Oui, surtout que pour nos parents, puisqu'on est quand même, on est resté 6 semaines là-bas.
Ah oui.
Et c'était long pour tout le monde. Et surtout pour nos parents, puisque c'est nous, on allait très bien là-bas. Enfin, on était très très bien là-bas.
Et eux, ils étaient passifs, ils étaient dans l'attente, évidemment.
C'est ça. Et donc eux, ils voyaient surtout, il y avait eu ces histoires de. Oui, c'est l'histoire d'émeutes, bon, qui s'était calmée au bout de 2 semaines, mais quand même, il y a l'instabilité politique qui règne quand même là-bas. Donc, nous, on était très bien, parce qu'on n'a absolument rien vu de tout ça. Mais quand vous êtes à l'extérieur et que vous voyez ce que la presse en dit, c'est toujours décuplé. Hein,
parce c'est toujours pareil, c'est un zoom. Hein.
Bah oui. Donc, non, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas tranquilles.
Pas rassurés,
et puis bon, on était quand même allé chercher leur petit-fils, donc il y avait aussi cette attente-là et cette. Donc oui, c'était L'arrivée à l'aéroport, oui, c'était vraiment très bien.
Et le petit les a acceptés tout de suite aussi ?
Oui. Lui, il a bien compris hein, déjà.
Ah oui.
Tout de suite. Ouais. Donc il a compris comment ça fonctionne déjà. Je crois qu'il est allé chez tout le monde et fait bisous. Il est je ne sais pas maintenant s'il le fait parce que c'est dans son caractère ou s'il a déjà compris ce que ça voulait dire. Maintenant, parce que c'est un peu tôt quand même. Hein. Mm-hmm. Mais il est quand même extrêmement, extrêmement câlin.
Charmeur.
Je ne pense pas que ce soit charmeur. Je ne pense pas que ce soit quelque chose... C'est très instinctif. Mm. Par exemple, quand je suis dans le salon et que lui, il est à côté dans la cuisine, ça lui arrive très souvent de courir, de venir, il fait un câlin, un bisou et il repart. Mm. Et il fait ça depuis le début.
C'est probablement sa manière à lui d'être rassuré aussi. Hein.
Oui, je pense. Il est très expressif. Enfin, il est. Maintenant, on peut encore une fois, je compare parce que le grand lui est plutôt taiseux. Donc lui, il est plutôt il va pas dire grand chose. Le petit lui, c'est exactement le contraire. Mmh. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il fait en sorte que tout le monde le comprenne. Hein. et lui, il arrive à évacuer en fait son trop-plein par des larmes.
Bon, du moment que ça sort d'une manière ou d'une autre. Après, ce sera à vous de lui apprendre à gérer ces émotions-là.
Oui, mais je pense que bon, là, il le fait plus. Il en a fait quelques-unes où vraiment il a, notamment après le retour. Quand on allait chercher à l'orphelinat, il nous a fait une grosse, grosse, grosse crise de larmes 3-4 jours après. Mais c'était magistral, hein, ça a duré une heure.
Mais oui, mais vous vous rendez compte pour ce petit bonhomme, tous ces changements, tout ce qu'il a vécu déjà en 2 ans de vie.
On a vraiment vu que c'était déjà vraiment de la. C'était vraiment salvateur, vous voyez. Mm. On remarque aussi, parce que bien sûr, on l'avait, il était dans nos bras, hein, et on voyait vraiment à sa réaction qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Que vraiment, il essayait de s'arrêter de pleurer, mais que ça ne fonctionnait pas.
C'est plus fort que lui. Oui.
Ah oui, donc il a fallu que ça sorte. Il nous en a fait quelques-uns, il nous en a fait trois. Donc il nous en a fait deux là-bas, une ici au retour. Là maintenant, on n'est pas à l'abri que ça revienne. Hein,
mais vous vous rendez compte, c'est 3 semaines, Mathieu, c'est rien.
Ah ben non, c'est rien. Et d'autant plus que voilà, il faut. Comment vous dire, à l'orphelinat, ils ont fait un job fantastique, vraiment, hein, vraiment fantastique. Il y a une chose qu'ils n'ont pas faite, mais ça, c'est pas de leur faute. C'est le principe là-bas. C'est que la frustration, il n'y en a pas. Ça veut dire que je ne suis pas sûr qu'il ait déjà entendu le nom.
Ah, d'accord. Dans l'éducation primaire, il n'y a pas eu ça déjà. Il n'y a pas eu les bases. Quoi.
Parce qu'on a vu, en 3 jours, je ne peux pas dire qu'on connaît tout, mais on voit un peu comment ça fonctionne. Et voilà. Et donc, bien sûr, j'aime bien un peu regarder les choses. Hein, j'aime bien aussi regarder un peu les détails. Et voilà, ils sont malins. Donc ça veut dire que si, comme il y a plein de personnes qui travaillent là, et s'ils vont chez la première personne et qu'elle va dire non, forcément ils iront 3 minutes plus tard chez la deuxième il y en a forcément un qui va dire oui.
Ils savent faire. Juste pour savoir, me faire une idée, ils avaient combien d'enfants quand vous y êtes allé à ce moment-là ?
Alors dans l'unité, parce que ça marche par unité, ils étaient une petite quinzaine.
Oui, quand même.
Et surtout et ça aussi c'est très important pour la suite, c'est que lui, en fait, il était le plus âgé de son groupe, et il aurait dû changer de groupe, mais comme les gens là-bas savaient qu'on arrivait, ils ont dit on va pas le changer de groupe parce que ça va faire
beaucoup de changements, oui.
Voilà. Ouais. Donc ce qui veut dire que lui, stagnait dans ce groupe-là depuis un bout de temps. Et c'était vraiment le plus âgé. Donc, puisque lui, il avait pratiquement 2 ans. Et les autres avaient 1 an ou moins.
Il était vraiment bébé, quoi, oui, forcément.
Donc, lui, c'était le chef. Hein. Mm. c'était vraiment le chef, et il était là vraiment en maître, hein, et on voyait.
Le caïd en couche-culotte.
Ah mais c'est vraiment ça, il roulait vraiment des mécaniques. Hein. Et donc là, il arrive dans une famille où
ça va pas marcher du tout, ça.
Ouais. Et ouais, où il est le plus petit, et où, non, quand c'est non, c'est non. Hein.
Et c'est pas en criant qu'on obtient quelque chose.
Et ça, il n'a pas encore compris.
Ça va faire un peu de temps.
Oui, ça va déjà beaucoup mieux. Il crie, enfin, on va dire qu'il a déjà compris, mais qu'il le fait parce que je pense que c'est plus fort que lui encore.
En tout cas, vous vous rendez compte la différence, Mathieu, entre notre dernière conversation et ce soir ? C'est fou, même votre voix a changé.
C'est vrai ?
Ah oui, vous avez une énergie, un sourire, malgré la fatigue, malgré évidemment tout ce bouleversement. On sent un bonheur énorme qui, à l'époque, était tellement... vous étiez tellement contrarié, vous aviez tellement peur que ça ne se fasse plus, finalement.
Ah oui, j'en étais pratiquement persuadé. Hein.
Ah mais je me souviens bien, oui.
C'était... Oui, alors, voilà. Avant, je ne dormais pas. Maintenant, je ne dors pas plus. Hein.
Pas pour les mêmes raisons.
Pas pour les mêmes raisons, mais bon...
Là vous l'avez voulu, celle-là.
Ouais.
Ah ben, bienvenue dans l'univers des parents. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Et puis, malgré tout, je persiste et signe. Hein. C'est bien.
Puis vous savez quand est-ce que vous ne dormirez plus non plus ?
Bah, plus jamais, je pense.
Oui, c'est un peu ça, quand ils sortiront tard à l'adolescence et puis qu'ils rentreront pas la nuit. Hein ?
Mais je pense qu'on va les éduquer dans la haine des autres.
Dans une cage.
C'est ça. Comme ça, ils sont pas obligés d'avoir des amis, finalement.
Non, ça sert à rien. Bon, non.
Hein voilà, nous, on a des amis, ce sera très bien. non, mais je pense que oui. Mais on avait déjà un peu ça pour le premier. Mais ouais, deux, c'est... ça change, hein.
Oui, comme vous dites, vous êtes un peu occupé. C'est là qu'il faut que le couple soit solide aussi. C'est souvent là qu'il y a des problèmes dans les couples quand le deuxième arrive. Hein. Et que ça soit une adoption ou pas d'adoption, c'est le même souci.
C'est au moment du deuxième, vous pensez ? Parce que moi, je pensais que c'était plutôt au moment du premier.
C'est souvent au moment du deuxième que ça clash.
C'est vrai ?
Ou l'un ou l'autre devient plus papa ou maman que conjoint.
Ouais, mais là, je pense que comme c'est les premiers temps, c'est...
Et puis votre couple a l'air assez solide.
Moi, je suis mal placé. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait demander peut-être ça aux personnes extérieures.
Vous savez quand même si ça se passe bien entre vous.
Ça se passe très bien.
Voilà.
Ça se passe très très bien. Même si on a, c'est ça qui est drôle. On a des manières de faire dans l'éducation qui sont très différentes.
Oui, j'allais dire, c'est assez fréquent aussi dans les couples hétéros aussi. Hein.
Oui, mais on va dire que sur le fondement, on est quand même tout à fait d'accord hein,
les valeurs importantes, quoi.
Les valeurs importantes, c'est là, on est vraiment à 100% d'accord. Mais il y a des fois des choses où je me surprends à dire, tiens, je ne vais pas y agir comme ça, moi.
C'est pas un sujet de conflit entre vous.
Ah non, au contraire.
Donc tout va bien.
Non, c'est au contraire, parce que c'est jamais des choses qui sont mauvaises, en tout cas pas encore, mais où je me surprends à dire, tiens oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pas réagi comme ça pour ça. Mais je réagis autrement pour d'autres choses, vous voyez, mais voilà. Mais non, on va dire que les rôles sont bien attribués, en fait. Et ça, les enfants ont compris aussi, c'est... mon mari sera plutôt le bain, hein, parce que moi j'aime pas ça, ça m'énerve de donner le bain. Donc, mais moi je vais plutôt m'occuper des repas.
Oui, chacun va trouver sa place dans cette belle histoire.
C'est ça.
Mais vous devriez. Est-ce que vous tenez un blog ou une page Facebook, quelque chose comme ça, pour raconter tout ça ? Parce que c'est vraiment quand vous l'avez raconté tout à l'heure, je vivais un feuilleton. Hein.
mais vous savez que j'y ai repensé juste maintenant en vous le racontant, finalement. J'ai pu penser à tout ça.
Pas besoin de scénariste, hein. Le scénario il est là tout seul, ça dépasse la réalité.
Et en plus, je vous ai même raconté que vous savez, quand on allait dans les bureaux, pour la première fois où on a rencontré donc, la personne qui allait nous suivre, qui nous a accompagnés lors de l'INA, 2 jours plus tard, on apprenait qu'elle était Covid. Donc on a été dans une camionnette avec elle quand même pendant 1 heure, on était toute la journée avec elle le premier jour à l'orphelinat aussi, on s'est dit oh là là.
Il aurait plus manqué que ça au tableau. Hein.
Mais on s'est dit, bah, forcément, on est positif parce qu'il manque plus que ça, finalement. Bon, non, finalement, on ne l'était pas, donc, très bien. Mais ouais, et puis maintenant, il est là, et puis ça, il va très bien, et un enfant de 2 ans, il est parfaitement normal, donc il provoque, il désobéit.
Oui, en plus, il arrive à l'âge, c'est ce qu'on appelle la petite adolescence, entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire, c'est un extrait de ce que vous vivrez d'ici 10 ans.
Et je vous promets que ça va être carabiné, alors.
Ben, c'est fort possible.
Non, parce que c'est... on va dire qu'il... Ouais, il a déjà bien cerné nos failles à l'un et à l'autre. Hein. Parce qu'il... mais il appuie vraiment dessus. Hein. Oula, il a vraiment bien compris. Hein.
Mais vous savez, les enfants qui ont vécu des choses difficiles dès la naissance développent une hyper-vigilance à tout. Ils sont extrêmement observateurs. Donc ça ne m'étonne pas du tout.
Oui. En tout cas, lui, il est très doué. Hein. En tout cas, pour appuyer là où ça fait mal, parce qu'il sait exactement tiens, si je fais ça maintenant avec celui-là, il va se passer ça. Par contre, si je fais la même chose avec l'autre, non, là, il va rien se passer. Donc, je vais plutôt faire ça. Hein, comme ça, pour le faire sortir de ses gonds, ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien.
Et je vous dis, en plus, entre 2 et 3, c'est vraiment la première répétition de l'adolescence. Donc, vous allez bien rigoler dans quelques années. Sauf que vous serez plus aguerri dans quelques années aussi. Et puis, vous aurez eu l'adolescence du premier, avant.
Oui, ça... Le premier était quand même très très sage, hein. Très 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 sage. Maintenant qu'il y a le frère, il est nettement moins.
C'est logique aussi.
Parce que
faut qu'il s'affirme.
Bah ouais. Et puis le petit fait des bêtises, il y a pas de raison que moi j'en fasse pas. Donc ouais, donc il commence bien aussi à bien se réveiller, hein, le premier.
Oui, puis le deuxième attire beaucoup votre attention et c'est normal. Donc le premier doit aussi faire plus de bruit pour montrer qu'il est là. Des fois qu'on l'oublie.
Pour l'instant, c'est simple pour nous parce qu'on est encore tous les deux à la maison. Parce que moi, je reprends que la semaine prochaine. Mon mari, lui, il est dans son congé, son premier congé. Donc, on est encore tous les deux à la maison. Donc, c'est très simple. Parce qu'on est au final, on est vraiment là pour eux deux. Hein.
Oui, c'est une grande chance d'avoir cette étape-là, mais vous verrez, ça se passera bien après, même à chaque étape, ça va bien se passer.
Ah oui, oui.
À chaque fois, chacun doit trouver sa place. C'est un jeu de rôle dans lequel chacun a un rôle à jouer, une place à prendre. Oui. Et tout ça évolue en fonction des années, en fonction de l'évolution de l'enfant et de la place de chacun. Et pour l'instant, vous les avez plutôt bien trouvées, vos places, je trouve, tous les quatre.
Bah, j'ai l'impression que ça donne aussi. Hein.
Je pense.
Puis, bon, après, comme dit, la semaine prochaine, il y a vraiment tout le monde qui est... La vraie vie va recommencer. Parce que moi, je recommence à aller au lycée. Le grand, lui, va retourner à l'école. Oui. Donc, ouais, là, ça va être pas réussi.
Mais attention, trouver sa place ne veut pas dire rester assis sur sa chaise sagement. Ça, j'ai bien compris. Mais ça veut dire que sur le fond, le socle est stable. Et ça, c'est le plus important. Après, le reste va bouger, ça, c'est sûr. Hein. Ça a déjà commencé.
Ouais.
Mais vous êtes là pour être les deux piliers de tout ça, vous le savez.
Oui, mais et puis finalement, ça reste quand même très agréable. Parce que malgré les bêtises, c'est rien de bien méchant qu'ils font, c'est juste de la provoque. Ça leur passera.
Évidemment, mais et puis une fois de plus, rappelez-vous dans quel état vous étiez il y a quelques mois. Vous auriez donné n'importe quoi pour les vivre, ces bêtises, tout de suite.
Ah, mais c'est pour ça qu'on est vraiment comblés. On peut pas le montrer aux petits, parce qu'il faut quand même qu'ils comprennent que c'est des choses qu'il n'a pas le droit de faire.
Bien sûr, bien évidemment.
Mais ouais, intérieurement, on est quand même... Enfin, moi, ça me plaît. Hein.
Bon, en tout cas, Mathieu, je suis très très contente que vous m'ayez rappelé pour me donner de ces nouvelles, et surtout de ces bonnes nouvelles.
Oui.
Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices aussi qui ont été touchés par votre histoire à l'époque, et très heureux d'apprendre ce soir que tout s'est bien passé, que tout se passe bien. Et je vous souhaite à tous les quatre tout le bonheur que du monde. J'allais dire que vous méritez, ce qui ne veut rien dire, parce que tout le monde mérite le bonheur, mais tout le bonheur du monde, vraiment.
Vraiment. Super, moi je vous remercie en tout cas.
Et j'ai une pensée, avec plein de gros bisous pour ces deux petits bons hommes.
Ouais.
Et puis un petit clin d'œil au papa avec tout ce qui va leur arriver.
Moi, je vais sûrement vous rappeler dans quelques temps pour dire. Ah,
j'en peux plus, je vais l'étrangler. Rappelez-moi quand vous craquez.
Ça marche.
Je vous embrasse, Mathieu.
Moi aussi.
Soyez heureux.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Europe 1, La Libre Antenne. Sabine Marin.
Pour cette deuxième partie de la Libre Antenne. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre soirée. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez continuer à appeler si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Vous faites le 39-21. Nicolas vous attend au standard et vous guidera avec beaucoup de bienveillance jusqu'à moi. 39-21 donc pour le téléphone. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, de réagir, de demander à être mis en relation avec quelqu'un par exemple, eh bien vous tapez simplement le 7-39-21. Vous commencez par le mot « nuit ». Et ensuite votre message. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Voilà, vous savez tout.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Amandine que j'accueille maintenant. Bonsoir Amandine.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors qu'est-ce qui vous amène Amandine? De quoi souhaitez-vous parler?
Je vous appelle parce que j'ai passé une journée horrible.
Ah.
Normalement, je dois être heureuse. Depuis 3 jours, je viens d'avoir mon labo de pâtisserie. Ça y est.
Votre labo de pâtisserie?
Oui.
Alors, racontez-moi ça.
J'ai été 10 ans aide-soignante. Plus de 10 ans aide-soignante et je me suis reconvertie. Et je suis devenue pâtissière.
Pourquoi?
Parce que je ne me voyais pas être aide-soignante toute ma carrière, ni infirmière du coup, parce que c'est toujours ce qu'on nous répond. Mais non.
Est-ce que ça a un lien... Pardon, je m'en étrangle. Est-ce que ça a un lien avec le Covid ou c'était une décision antérieure?
Ah non, c'était antérieur. Ce choix-là d'aide-soignante, c'était par défaut aussi. L'orientation, ça n'a pas trop fonctionné. Donc je ne savais pas quoi faire.
D'accord.
Et donc voilà, et j'ai toujours voulu, voilà, je savais que j'avais autre chose à faire, je savais que je voulais, j'avais quelque chose à faire, alors je voulais entreprendre, je sentais que je voulais entreprendre. Et j'ai testé plusieurs idées, et puis voilà, il y a 3 ans, j'ai commencé un CAP en candidate libre, donc j'allais travailler le matin, et je pâtissais l'après-midi, la nuit, j'avais mes enfants, enfin bref.
CAP de pâtissière donc?
Oui.
Vous pensiez que c'était votre voie?
Mais c'est pragmatique, hein. Je pèse le pour le contre, vous voyez, enfin...
C'est quoi le pour le contre dans ce métier, par exemple?
Ah, le contre, c'est les horaires.
Ah oui.
Oui. C'est les gens... Enfin, c'est pas les gens, c'est que moi, je sais... Si vous saviez, j'ai écouté tous les podcasts. Je passe du syndrome de l'imposteur à celle qui ne sait pas dire non, à l'auto-sabotage.
Je vois que vous avez bien suivi les épisodes du feuilleton.
Ouais, malheureusement. Là, tout à l'heure, c'était comment changer d'esprit, de mindset. Parce que
Attendez, posez-vous que je comprenne bien l'histoire. Donc, il y a 3 ans, vous passez un CAP de pâtisserie. Tout en bossant le matin, donc j'imagine que c'est une période bien remplie.
Ah ouais, je me levais même souvent à 2h du matin, vers 2h, hop, je pâtissais, à 6h30 je partais faire les toilettes, et je revenais à 1h et je repâtissais, enfin bref, voilà.
Bon.
Avec mes loulous, ça a été.
Voilà, vos loulous, ce sont vos enfants?
Oui, pardon.
Je pensais que vous auriez pu appeler vos patients aussi, comme ça.
Non. Donc, je l'ai obtenu, mais du coup, hein, je vous parlais du syndrome de l'imposteur. Je suis pas allée dans un fournil, quoi. C'était pas encore obligatoire de faire un stage. Donc, j'avoue que, voilà, j'ai fait ça moi-même.
Donc, il se passe quoi? Vous sortez avec la formation en poche?
Je sors avec la formation en poche et je crée ma micro-entreprise.
Oui.
Alors, j'ai pâtissé de chez moi pendant presque un an et demi.
C'était de vous proposer quoi? Une livraison? Comment vous avez fait?
Ah oui, j'ai vraiment pâtissé de mon four de plaques. Je faisais des centaines, enfin, ça bougeait le dimanche sans viennoiserie, 300 choux, j'ai fait 70 bûches à Noël. Et tout ça de chez moi.
Mais comment vous faisiez connaître?
Facebook, enfin, ça suffit, les réseaux sociaux.
Ben, c'est vachement bien, dites donc, bravo. Il faut beaucoup d'énergie pour mettre ça en place. Hein.
Ben, je sais pas, en fait, je me rends compte de rien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression... Là, je suis dans mon labo, je dois travailler toute la nuit parce que j'ai trop de commandes, parce que je sais pas dire non, parce que...
Attendez. On va prendre les choses depuis le départ. Donc, vous démarrez de chez vous, d'abord.
Oui.
Vous pâtissez chez vous.
Oui.
Vous avez des enfants et un conjoint?
Oui.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont avec vous?
Oui.
Bon,
oui,
ça c'est énorme. Ça c'est énorme déjà.
Ah ben oui, mais totalement. De toute façon, je ne sais même pas comment on pourrait faire ça sans le soutien de sa famille, tellement
c'est difficile.
Ça prend tout le monde. Bah oui, c'est quand même.
En même temps, une maman qui fait des gâteaux, qu'est-ce que c'est chouette, hein?
Oui, c'est vrai.
Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Au bout d'un an et demi, ça évolue?
Donc, oui, j'ai quitté mon job d'aide-soignante, du coup, entre deux, en décembre, là, cette année.
Vous avez basculé complètement, passée. Là.
Et voilà. Et ouais. Là, je me suis positionnée sur sur un local dans ma ville, et j'ai créé un laboratoire de pâtisserie, parce que c'est pas une boulangerie-pâtisserie, enfin, ou avec une vitrine, c'est sur commande et sur Internet.
Pourquoi laboratoire?
Parce qu'en fait, c'est pas une boutique. C'est là où je fais des pâtisseries, ça s'appelle un laboratoire.
D'accord, donc vous continuez le principe de ne pas vendre en direct.
Voilà, je fais que des commandes, j'ai un site internet et comme ça, les gens ils peuvent aller, payer, commander, choisir leur créneau et hop, ils passent.
Et pourquoi? Quel est l'intérêt de ça plutôt que d'avoir un pas de porte, comme on dit, avec des clients?
Parce que je peux maîtriser les commandes, mais même si je ne maîtrise rien. Et puis comme ça, je gaspille pas. Parce que pendant ces un an et demi, là, j'ai tous les week-ends, c'était 20 minutes de sommeil sur 2-3 jours. Et je ne me voyais pas faire plus, même là aujourd'hui. Regardez, j'ai ouvert il y a 3 jours. Et là, je vais passer la nuit ici, je ne suis pas rentrée chez moi.
Mais je crois que vous êtes très fatiguée surtout, hein, épuisée.
Ah oui, mais je viens de commencer.
Mais c'est normal. Vous ne vous rendez pas compte de l'énergie que vous avez déployée. C'est fantastique ce que vous avez fait.
Non, je ne me rends pas compte, justement. Je ne me rends pas compte de ce que je fais.
Ben je vous le dis, vous avez réussi à changer de métier, à passer d'un métier qui n'avait rien à voir, à vous reformer alors que vous aviez une vie professionnelle et familiale, ce qui déjà demande un courage énorme, à faire accepter ça à votre famille, à construire quelque chose et maintenant en plus à basculer et avoir votre laboratoire. C'est normal d'être épuisé et c'est normal d'avoir peur. Parce que je crois que c'est la peur là, qui vous anime.
Ah ouais, mais je suis morte de
vous êtes terrorisée, oui. Mais ça, c'est comme tous les auto-entrepreneurs qui lâchent d'un coup pour y aller. Hein. C'est normal d'avoir peur.
Du coup, ça paralyse. Hein. Ça fait grasser du vent. Hein. Enfin, c'est contre-productif. Quoi.
Alors oui et non, c'est ce que j'explique souvent. La peur, si vous la laissez devant, elle vous bloque.
Ouais.
Si vous la mettez derrière, elle peut vous pousser en avant aussi.
Mais c'est comme là votre introduction, de laisser les pensées négatives nous traverser. Mais oh punaise,
alors ça,
bien.
C'est la fatigue. Le problème, c'est quand on est fatigué, on n'y arrive plus. Est-ce que vous arrivez à vous ménager des moments de repos la journée? Des micro-siestes au moins?
Pas le week-end, mais là j'ai mal géré. Il y a eu un engouement tel que ce week-end, c'est...
Mais attendez, vous vous rendez compte que vous pourriez m'appeler là? Imaginez une scène différente. Vous m'appelez en me disant j'ai ouvert mon truc, j'ai pas une commande. J'ai des dettes par-dessus la tête, j'ai pas un client, j'ai rien à faire de mes journées. Là, je m'inquiéterais vraiment pour vous.
Mais le problème, c'est que je voulais sortir de ma zone de confort et aujourd'hui, je me dis.
Vous êtes bien sorti de la zone de confort, ça c'est sûr.
Je reviendrai bien.
Non, je crois pas. Sincèrement, je crois pas, Amandine. Parce que c'est du bonheur que vous êtes en train de construire, mais évidemment, c'est épuisant. Et il me semble que la première urgence, c'est d'apprendre à gérer votre sommeil de manière séquentielle. Quand on fait des boulots comme ça, il faut apprendre à avoir des micro-siestes. C'est marrant, je parlais de ça hors antenne avec mes assistants tout à l'heure, de nos cycles. Vous savez qu'on a tous des cycles, jour et nuit, qui durent 90 minutes, 1h30.
Oui.
Et quand on apprend à connaître ces cycles-là, on apprend à gérer son sommeil court. C'est ce que font aussi les navigateurs. C'est-à-dire qu'on on se couche pile au bon moment et on, on s'octroie une heure et demie. Mais faut, faut pas que ça, et ça peut déjà recharger les batteries énormément, mais il ne faut pas le faire n'importe quand, n'importe comment.
Oui, peut-être que je me pencherai là-dessus pour avoir une heure et demie déjà qui me ressourcerait, qui me ferait du bien.
Exactement, parce qu'effectivement, quand on est fatigué comme vous l'êtes, on voit tout en noir. On n'arrive plus à rééquilibrer la balance positive-négative, comme je parlais, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est normal. Et vous venez de basculer. Très, très souvent, je parle beaucoup avec des auto-entrepreneurs. Quand ils gardent un pied dans l'ancien métier, ça va. Il se donne l'impression d'être encore porté.
Là, j'étais chez moi, bon, j'étais un peu cachée.
C'était facile.
Mais là, ouais, là, aujourd'hui, c'est plus une auto-entreprise, en plus, c'est une vraie société.
Mais c'est, Amandine, c'est ce que vous vouliez.
Bah ouais, c'est ce que je voulais, mais...
Et c'est normal que ça soit difficile, et c'est bien que vous puissiez l'exprimer, ça s'appelle vider son sac, et c'est très bien.
Ah ouais, parce que hier soir, déjà, ça... Hier soir, ça allait pas trop. Et puis bah, là, bah, normalement, je suis censée être chez moi, là, dormir. Hein, mais comme j'ai trop de travail, bah, je reste ici. Je me suis dit, bah, tiens, comme je sais que je reste ici, je vais prendre 5 minutes pour faire une pause et puis appeler.
Vous faites des bonnes tartes au citron ?
Ah ouais, j'adore les tartes au citron.
Moi aussi, j'adore. C'est mon péché mignon, les tartes au citron.
Ah oui, j'en fais.
Non, mais je pense vraiment que le souci principal, il est là. Vous avez pris de l'élan. Et là, ça y est, vous avez sauté de la falaise et vous volez. Et vous vous rendez compte que c'est fatigant de voler tout seul, mais qu'est-ce que c'est beau la liberté aussi après. Vous vous rendez compte ?
Ben oui, je sais qu'un chef d'entreprise, il doit voir plus loin. Hein.
C'est... Exactement. C'est comme exactement cette image, de, moi, cette image de l'aigle, là, en vous entendant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un tout petit oiseau qui est encore dans le nid, puis qui apprend à marcher, puis après qui reste sur sa branche, et puis là, ça y est, vous avez pris votre envol. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est fatigant, mais vous allez apprendre à gérer ça et en tirer tellement de bénéfices. Et en plus, quand j'entends dire « j'ai trop de commandes », mais waouh, merci, merci mon Dieu. Eh oui, ça veut dire que vous êtes bonne dans ce que vous faites. Et que ça se sait.
Ben bah ouais, mais moi j'ai le sentiment de...
Alors là, voilà.
Le syndrome de l'imposteur.
Voilà,
chose,
exactement,
hein.
J'allais vous le dire, ce fichu syndrome de l'imposteur.
Oh, c'est terrible.
Alors,
on a beau vous le dire, on a beau vous dire des choses, mais on a l'impression que tout le monde ment.
Bien même sûr, bien sûr. Et que si ça, si ça,
je les connais, ceux que je connais pas, voilà. Ils mentent parce qu'ils ont, je sais pas.
Parce que tout le monde ment et de toute façon, je mérite pas. Et puis, de toute façon, si j'ai réussi, c'était sur un malentendu.
Hein. Ouais, voilà.
Voilà.
Sur 3 ans, c'est un gros malentendu.
Non, mais ça, c'est typiquement. Je vais vous poser la même question que je pose à tous les gens qui me disent ça. De qui attendez-vous l'approbation ? De qui attendez-vous l'autorisation de vous sentir légitime ?
C'est fatigant de toujours de pas être sûr de soi. Alors quand on enlève la confiance en soi, bah là c'est là où on fait n'importe quoi. Hein. Problème, c'est que j'aimerais basculer vers le cercle vertueux là. J'aimerais faire la bascule comme ça.
Bah déjà d'en avoir conscience, vous avez fait la moitié du chemin, vraiment.
Bah ouais, j'en ai conscience. Hein. Ça, c'est
c'est douloureux, mais en même temps c'est un sacré pas en avant. C'est se dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas dans ma façon de fonctionner, là, pour l'instant.
Ah, ouais.
Mais je pense... Tiens, regardez, j'ai plein de messages qui arrivent pour vous. Il y a Annie qui dit « Courage avec votre énergie, soufflez un beau coup et ça va aller. » Et Marie Tatum qui dit « Extraordinaire ce qu'elle a accompli, cette personne. Mettez de la musique que vous aimez le plus, pâtissez sans limite et surtout, regardez le chemin parcouru. » Et c'est ça que je crois que vous êtes tellement dans un...
Le chemin parcouru, je ne l'ai pas vu.
Vous êtes comme un cheval avec les... Vous savez, les œillères sur le côté. Vous avez tellement été focalisé sur l'objectif et vous y êtes que d'un coup, vous ne vous rendez même plus compte de tout ce chemin qu'il y a eu. C'est énorme ce que vous avez réussi à faire. C'est énorme, Amandine. Toute seule, en plus. Comme une grande. En gérant une vie de maman, une vie de femme, et vous y avez réussi. Vous êtes devenue votre propre patronne. Et en plus, vous me dites, j'ai trop de commandes. Alléluia. Mais non, c'est parce que les gens sont bien élevés, en fait. C'est très très mauvais ce que vous faites et ils se forcent à manger, c'est ça ?
Ben non, certainement pas.
Mais une fois de plus, je vous repose cette question. Est-ce que vous iriez un jour taper sur l'épaule de quelqu'un et lui dire « Au fait, j'ai réfléchi, t'as le droit d'être légitime, de te sentir légitime. Allez, je te le donne, cette légitimité. »
Ben non.
Ben non. Et donc, personne ne viendra jamais le faire pour vous non plus. Donc, arrêtez d'attendre. que quelqu'un vous dise que vous avez le droit d'être là où vous êtes, parce que vous avez le droit, vous l'avez gagné ce droit. C'est votre place. Vous l'avez piqué à personne et vous la méritez amplement. La preuve, c'est que vous avez trop de demandes. Oui. Je crois que c'est juste un énorme coup de fatigue là, qui vous assomme. Et c'est normal, parce que ce sont des horaires très difficiles que vous avez là.
Ouais, c'est ça, j'ai peur de trop, j'ai tellement travaillé, je vous assure, à dormir des 10 minutes à la fois, que j'ai peur de retomber là-dedans.
Non, c'est d'épuisement ça. Essayez de trouver un spécialiste du sommeil ou quelqu'un, un médecin qui s'y connaît bien dans ce domaine-là.
Et lui demander comment je dois dormir.
Exactement, comment on gère, et sans médicaments si possible, c'est pas la peine de tomber là-dedans. Comment on gère ces phases de sommeil, comment on gère les micro-sommeils, les moments de récupération comme ça, ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Et ça peut déjà être une grosse aide pour vous. Arriver à récupérer plus sur moins de temps.
Oui. Oui, et puis il faut que je me mette en place, que j'apprenne à m'organiser, de toute façon, je sais.
Bien sûr, et puis il arrive un moment...
J'ai demandé de l'aide, Demain, il y a un ancien boulanger qui vient me voir, il va me dire... Il va me taper sur les doigts déjà, parce qu'il va voir mon état, et il va me dire... m'aiguiller un petit peu.
Mais c'est bien de participer, c'est bien d'oser dire aussi j'ai besoin d'aide, ça va pas, je m'en sors pas. Parce que tous ces gens-là l'ont vécu.
Ah ouais, bah franchement, c'est un truc que j'hésite pas, quoi. Et après, je veux pas non plus être un peu lourdingue, mais j'ai besoin d'en parler, sinon c'est pas possible. Mais du coup, après, la vie familiale, hein, elle peut prendre un coup. Alors on se dit, mince, on a créé tout ça et on va finir avec un ulcère et célibataire.
Non, ouais. Oui, mais là, c'est parce que vous voyez tout en noir.
Ouais, bah oui.
Au contraire, vous allez finir votre propre patronne. Je pense qu'à terme, vous allez même probablement devoir employer quelqu'un. Comme ça, ça vous permettra aussi de lever le pied. Et il y aura tellement de satisfaction, vous allez voir.
Ouais.
Tellement d'avantages à tout ça. Mais là, effectivement, vous êtes au moment de vous lancer, de prendre l'élan et de dire « Waouh, faut que je vole toute seule, mais je pensais pas que ce volet, ça c'était aussi fatigant. » Ben oui, bien sûr, surtout avec des horaires comme ça, mais c'est gratifiant. Le fait que vous ayez tellement de commandes, c'est tellement gratifiant. Dès le début déjà, comme ça.
Oui, c'est vrai.
Je vous assure, je pense que c'est vraiment la fatigue qui vous... Et c'est bien normal qui vous fait tout voir comme ça. Mais là, vous avez déjà fait l'essentiel. L'essentiel.
Ben oui. Bon, ben merci beaucoup. Je note.
Tenez bon, Amandine, vraiment, je suis sûre que vous allez être une formidable pâtissière et surtout, vous allez trouver votre équilibre et votre bonheur dans cette façon de vivre.
Oui.
Attendez, il y a encore un message qui vient, c'est Bérangère qui dit « Oui, c'est vrai, la raison. Je fais des séances de sophrologie guidée en début d'après-midi, 35 minutes, ça me permet de récupérer beaucoup d'énergie.
Ça aussi. Sophrologie guidée.
Sophrologie guidée, la méditation guidée aussi, pour se ressourcer. Vous pouvez, il y en a beaucoup sur Internet.
Ben oui, la respiration aussi,
Se prendre 35 minutes comme ça pour soi. Ouais. Apprenez aussi les micro-siestes qui durent 20 minutes. Mais vous savez que les hommes d'affaires, les hommes politiques qui voyagent beaucoup, ils ont appris ça. Ils dorment 20 minutes et ils sont partis pour 6 heures. Ça s'apprend tout ça.
Ok.
Et quand on a le sommeil, on gère quand même mieux le reste. Surtout que vous avez fait déjà le plus dur.
Oui, je vous écoute.
Qu'est-ce que vous cassez là en même temps?
Ah non, je vais faire des crêpes.
Vous me donnez
faim,
j'ai toujours faim à cette heure-là. Non, prenez le temps, Amandine, surtout aussi de vous féliciter vous-même, de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait.
Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que je dois m'arrêter et regarder ça. Hein.
Ce serait votre meilleure amie qui aurait fait ce chemin-là, hein?
Oui,
vous seriez la première à lui dire, mais t'es géniale, ma grande. Qu'est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait?
Ça, c'est certain.
Et ben voilà. Alors, soyez votre meilleure amie pour une fois.
C'est vrai, on ne l'est pas. Hein.
On a du mal à être indulgent avec soi-même.
C'est vrai. Ok, ben je prends vos conseils.
Et je vous envoie plein d'énergie pour tenir cette nuit, en tout cas.
Oui, c'est gentil.
Et je pense à vos tartes au citron avec envie.
Bah merci beaucoup de m'avoir écouté.
Je vous embrasse, Amandine.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Patricia. Bonsoir à vous, Patricia.
Oui, bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue.
Pardon ?
Soyez la bienvenue, vous disais-je.
Oui, merci. Bon, je suis un petit peu émue parce que c'est pas évident de parler à l'antenne. Alors bon.
Ça va bien se passer. On est toutes les deux.
Voilà.
Vous allez m'aider. Oui, je suis là pour ça. Je vous écoute.
Voilà, c'était pour raconter un petit peu mon histoire, l'histoire de où est impliquée ma petite fille, ma fille. Donc voilà, j'ai ma petite fille au collège. En sixième, je la prends la semaine.
Donc elle a quoi, 11 ans ?
Voilà, c'est ça, 11 ans et demi.
Oui.
Et c'est un petit peu compliqué. J'ai offert de l'accueillir chez moi parce que donc c'était compliqué à la maison.
Ah. Et qu'est-ce qui se passe dans sa maison ?
Ma fille vit avec quelqu'un d'autre, un autre compagnon.
Qui n'est donc pas son papa.
Voilà, qui n'est pas son papa. Et puis depuis 2 ans, et donc c'était c'est assez compliqué. Il y a des hauts et des bas. Et puis ma petite fille a eu aussi une petite histoire, une histoire compliquée hein, depuis le départ, hein, depuis sa naissance avec ma fille. Ma fille a eu beaucoup de liaisons. Ça a été très très difficile. Donc ma petite fille a été un peu trimballée à droite, à gauche.
Mais est-ce qu'elle connaît son papa ?
Pardon ?
Est-ce qu'elle connaît son papa ? Son
oui, père. Oui, elle connaît son papa, elle le voit de temps en temps.
D'accord.
Il est là, mais c'est pas un super papa, quoi.
C'est pas un support fiable, quoi.
Non, c'est pas un support. C'est pas un support très fiable. Donc il y a eu des. Ma fille a eu des histoires très douloureuses avec et très particulières avec certains garçons. Avec celui-ci, c'est plus stable. Mais donc, évidemment, la petite, elle a 11 ans et demi, donc c'est quand même moins facile.
Pour me faire une idée, il en a vu passer combien, 11 ans ?
Je ne sais pas, 4 ou 5, un truc comme ça. Hein.
Oui. Mm-hmm. Mm. Pas facile,
Dont un qui était très particulier, on l'a sorti d'une histoire, c'était un vrai mythomane et ça a emmené loin ma fille et puis ma petite fille, ça a été très très compliqué.
Elle n'a jamais été touchée, votre petite fille a agressé quand même.
Non, à notre connaissance, non, mais ce garçon-là commençait à être assez méchant parce qu'il était sous l'emprise de la drogue. Mmh. Et de l'alcool, donc c'est ce qui a fait quand même réagir ma fille. J'ai dû faire appel au conseil de famille pour que qu'on prenne des décisions et puis que ce garçon s'en aille de la maison et puis que j'ai dû accueillir ma fille en catastrophe et ma petite fille quelque temps.
Mais je ne comprends pas. Si ce monsieur est parti, pourquoi votre petite fille ne reste pas avec sa maman ?
Puisque cet
homme est parti, pourquoi votre petite fille ne reste pas avec sa mère ?
Ah si, elle est restée avec sa mère après. Hein. Moi, j'avais accueilli les deux momentanément.
D'accord.
Et après, donc, on a restabilisé la chose. Elle est repartie avec sa maman. Et après, elle a eu d'autres liaisons avec d'autres hommes que nous, on n'a pas connus après.
D'accord. Mais pourquoi vous me dites qu'elle est chez vous en semaine alors ?
C'est parce que donc là elle est avec quelqu'un donc depuis 2 ans et il y a des hauts et des bas et puis ma petite fille commence à avoir des crises d'adolescence, de préadolescence. Malheureusement elle est pas en retard hein, de ce côté-là.
Il y a des fois on aimerait mieux mais bon.
Oui voilà mais là. Et elle a dit que c'était plus possible avec elle, elle n'y arrivait plus, au niveau de l'école, elle n'y arrivait plus. Elle voudrait bien que son père la reprenne ou elle voudrait la mettre en pension, etc. et tout. J'ai dit, oh là, attends, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis, ma petite fille, d'un autre côté, parce que je l'accueillais de temps en temps les mercredis ou des fois les week-ends, elle me disait qu'elle en avait assez aussi de cette situation. Alors, donc, je me suis dit, au lieu d'aller en pension parce que je la trouvais trop jeune, j'ai dit bah ça serait peut-être bien que le papa la prenne. Et si jamais le papa veut pas, eh bien que moi je veux bien faire office de pension la semaine.
Mais qu'est-ce qu'elle voulait ? Est-ce que quelqu'un lui a demandé ?
La petite fille ?
Oui.
Ah bah la petite, non, elle. La petite, bah c'est ça, ça dépendait si la situation était compliquée à la maison. Là, elle voulait bien venir chez moi.
Parce que certains enfants, dans ces cas-là, réclament la lettre en pension.
Oui, mais là, non, pas du tout. Elle voulait pas la pension. Elle voulait pas être séparée de sa mère. Mais des fois, quand c'était trop dur, elle voulait bien aller chez moi. Mais chez
elle
son père,
perdue,
elle
quoi.
Se dit. Voilà, chez son père, elle savait très bien que son père ne lui ferait pas un super accueil. Alors bon, moi, j'ai travaillé auprès du papa et j'ai dit bon, bah voilà la situation. J'ai dit. Ça va pas bien entre Fanny et j'aurais pas dû dire le nom, entre ma fille et ma petite fille.
C'est-à-dire qu'on sent que votre fille est fragile, n'arrive pas à gérer sa vie sentimentale à elle.
Non, pas du tout. Ouais.
Et elle n'arrive pas du tout à gérer sa fille pour le coup.
Non.
Donc ça part un peu à volo tout ça, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et à 11 ans, c'est le moment où il faut surtout cadrer et être là. Donc c'est compliqué.
Voilà, c'est ça. Alors donc moi j'ai essayé de faire appel au papa. Il a dit oui d'accord, moi je veux bien la prendre, mais elle ira au collège normal, public, et elle devra prendre le car, et donc chose que ma petite fille a pas voulu, ne voulait absolument pas, et donc elle a dit ben puisque c'est comme ça, ben j'irai chez toi mamie.
Vos relations donc, ont toujours été bonnes toutes les deux.
Nos relations ont toujours été très bonnes. Seulement là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis le cadre, etc. Tout y est pour que ce soit serein.
Qu'est-ce que vous appelez j'ai mis le cadre ? Qu'est-ce que vous avez donné comme limite ?
C'est-à-dire qu'elle a sa chambre, elle a ses affaires. Elle a sa petite salle de bain, elle a vraiment tout. Et puis donc, c'est une école privée. Et puis donc, on la conduit le matin, on va la rechercher le soir. Voilà, et puis...
Mais est-ce qu'elle a quand même quelques obligations en échange, ça serait pas mal, non ?
Les obligations, c'est qu'elle elle donne de la bonne volonté pour travailler. Parce que malheureusement, l'école, c'est pas son truc. Elle aime pas ça. Et puis, elle est trop gâtée, elle est trop pourrigatée par ma fille et puis son nouveau compagnon.
Oui. Votre fille qui peut-être... Ah, ouais.
Et voilà. Et donc, quand il y a eu la venue du bébé, c'était pas prévu. Moi, j'ai bien dit, dans ces cas-là, il faut savoir si ma petite fille veut toujours venir chez moi ou pas. Et puis, je lui ai demandé au moins 4 fois. Et ma petite fille a dit, oui, je veux toujours venir chez toi. Bon, ok, d'accord. Et puis donc là, le petit frère est né.
Comment elle a pris ça, d'ailleurs ?
Oh, pas bien.
Ah.
Non, pas bien du tout. Là, t'es pas contente du tout. Et on a fait un travail là-dessus. On lui a dit que, bon, oui, mais de toute façon, 11 ans et demi de différence, franchement, je serais pas vraiment sa sœur. On peut pas appeler ça une relation fraternelle. Donc, je lui ai expliqué que ce serait différent et que c'est sûrement qu'il s'apprécierait plus tard. Et que c'était toujours bien d'avoir quand même un frère ou une sœur dans sa vie.
Mais comme elle n'a pas connu l'harmonie à la maison, c'est difficile pour elle d'imaginer que c'est possible.
Ah oui, bah oui.
Là, vous lui parlez d'un schéma qu'elle ne connaît pas du tout.
Oui, voilà, ouais. Ah, c'est clair. Et puis donc, voilà.
Donc elle s'est installée chez vous maintenant ?
Pardon ?
Elle s'est installée chez vous ?
Oui, donc c'est tout récent. Et puis ça n'a pas loupé. C'est exactement la même chose qu'avec sa mère. Les devoirs, c'est une prise de tête continuelle, quoi. Voilà. Alors là, je me suis dit, moi, j'ai plus la force.
Oui, bien sûr.
de tenir tête comme ça, et elle est rebelle. Donc je me suis aperçue, puisque je l'ai toujours suivie, dès la section de grand, qu'elle était rebelle et que c'était dans son caractère. Alors elle a toujours eu du caractère.
Du tempérament.
Elle a toujours eu du tempérament. Je dirais, elle a eu des choses pas faciles et beaucoup de souffrances, etc. Et tout, beaucoup de conflits avec sa maman.
Mais c'est ça aussi. Alors, c'est pas forcément que le fait qu'elle soit rebelle, c'est qu'elle vous fait payer à tous ses souffrances à elle.
Ouais, bah. Et oui. Ça doit être de ça, mais pourtant je me dis, l'ayant testée, etc., je dis, elle est rebelle aux devoirs et aux leçons, et ça, elle est terrible. C'est pas du tout qu'elle n'est pas intelligente, non, c'est qu'elle est, elle se rebelle, et elle ne veut pas le faire, et puis elle n'arrête pas de jouer la carte, je suis idiote, je ne sais pas faire, elle n'a que des défauts, elle se dévalorise sans arrêt, et pourtant moi je lui dis le contraire, mais il n'y a rien à faire, et là je lui dis carrément, mais je dis arrête de dire ça, simplement pour qu'on te laisse la paix et qu'on ne te demande pas des efforts pour apprendre, mais elle refuse.
Qu'est-ce qu'il dit sur elle à l'école ?
Ah ben, donc là, son maître, j'ai été le voir plusieurs fois, j'aurais voulu que ma fille entende son discours. Et malheureusement, l'éducation nationale, bon, moi je suis une ancienne enseignante, hein. Donc ça a beaucoup changé maintenant, eh bien, il y a plus de notes. Hein, ce sont des appréciations, c'est vaguement des lettres, etc. Donc c'est pas parlant pour les parents, hein, on ne sait pas tellement où se situe notre enfant, mais c'est la réforme, hein, voilà.
Mais donc là, vous parlez de l'an dernier, elle était encore en primaire.
Voilà, oui, elle était en primaire.
En CM2 donc.
Voilà, donc elle a eu le même maître en CM1 et en CM2.
D'accord.
On nous a donné l'ordre depuis quelques réformes de ne plus jamais dire de mal de l'élève, ni à l'oral devant les parents, ni à l'écrit. Alors, de dire du mal, hein, faut toujours dire du bien. Hein, donc, il faut faire un petit schéma, hein, voilà. Mm-hmm. Alors, ce qui fait que c'est sûr que les parents, maintenant, aujourd'hui, sont perdus. On ne se situe pas. Et moi, en voyant son bilan, même moi, en étant enseignante, j'ai du mal à situer la gamine. Mais bon, je voyais bien qu'elle était faible. Et le maître n'a su me répéter par deux fois. Ah ben, vous savez, on en perd des élèves au collège. Hein. On en perd.
Ah ben, c'est rassurant.
Alors, je dis oui, d'accord. Mais je dis, c'est quoi votre message là ?
Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ?
je dis, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être perdue ? Ah ben, faudra qu'elle apprenne ses doigts, ses leçons, et puis qu'elle fasse ses devoirs, hein, sinon elle va être perdue, voilà.
Oui.
Donc, ça c'est sûr que c'était bien écrit, là c'était la seule chose claire.
Il avait le droit de dire, quoi.
Voilà, qu'il avait le droit de dire que, bon ben, ça serait mieux si elle apprenait ses leçons et qu'elle faisait ses devoirs.
Mais là, depuis qu'elle a commencé, ça fait quoi, 3 semaines, un mois ? 3 semaines ?
3 semaines.
Est-ce qu'il y a eu des mots particuliers, des problèmes particuliers ?
Non, il n'y a pas encore, mais c'est seulement, bon, ben voilà, les devoirs et les leçons commencent à tomber. Et donc là, ça a clashé, parce qu'elle ne veut pas le faire. Et donc, elle utilise toutes les ruses qu'elle utilisait jusque-là. Elle oublie les livres ou les cahiers au collège.
Oui, elle slalome, bien sûr, elle est dans l'évitement, voilà. par permanent. Oui.
Elle slalome, et puis bon ben moi j'ai toujours eu cette conviction que c'était dans, même si elle avait eu des difficultés à parcours psychologique difficile, j'ai toujours eu l'impression que c'était dans son caractère. Je dis moi ma mère elle était pareille, son papa était pareil, et je dis j'ai l'impression que voilà, ils se bloquent et ils veulent pas faire d'efforts. Bon, et puis avec la période du Covid, eh ben, c'est sûr que les gosses se sont retrouvés devant les jeux, et puis les écrans, et elle est à fond là-dedans, et c'est son échappatoire, et puis bon, ben, elle est trop gâtée par le nouveau beau-papa et sa maman. qui veulent compenser.
C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je pense qu'ils cherchent à compenser tout ce qu'ils n'ont pas su et pu faire. Maintenant, quand je vous parlais de cadre tout à l'heure, vous me dites j'ai délimité un cadre. Vous m'avez parlé beaucoup de choses matérielles. Elle a sa chambre, elle a sa salle de bain, elle a ci, elle a ça. Mais est-ce que vous avez aussi délimité des limites dans sa façon de vous parler, de réagir quand vous dites on va au clash ? Est-ce que vous arrivez quand même à lui dire qu'elle a 11 ans, que vous êtes sa grand-mère et qu'il y a un truc qu'on appelle le respect ?
Bah, disons que je lui fais comprendre, elle me respecte, mais elle a des petites insolences, mais bon, moi ça, j'ai pas de problème avec les insolences. Hein.
Oui, mais attention.
J'évite, ils mettent le dessus, etc. et tout. Mais c'est ce refus de travailler. Et je me dis, là, tout à l'heure, j'ai appelé une amie, une enseignante, une très grande amie. Et donc là, avec mon compagnon qui, lui, est très doué psychologiquement. Il a eu 2 filles et puis il est assez doué psychologiquement avec les rapports. Mmh. Moi, j'avoue que j'angoisse. Hein, voilà, je suis une angoissée parce que moi, j'étais une très bonne élève à l'école. Après, avec mes enfants, avec ma fille, j'ai connu quelques difficultés, mais mon fils, j'ai pas connu de difficultés. Et je dis, moi, c'est ça le pire que j'ai rencontré chez des élèves, c'est quand ils veulent pas. Ils ne veulent pas apprendre et qu'on se heurte à un mur. Je ne sais pas quoi faire.
Alors, il y a plusieurs choses. Là, je pense qu'il y a une petite erreur que vous faites, c'est que vous comparez beaucoup. Mmh. Vous comparez votre fille. Elle a une autre histoire de vie. Elle a un autre passé et un sacré passif aussi. Mmh. Donc, vous ne pouvez pas comparer. Maintenant, on va prendre le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie ? Qu'est-ce qui l'intéresse ?
Ah ben, il n'y a que le cheval et puis les jeux. Les jeux aux écrans.
Voilà. Attendez, que le cheval, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'elle a, elle a une passion pour ça ?
Oui, elle a une passion pour ça, mais par contre, c'est une passion, mais elle veut pas passer de petit galop, elle veut pas du tout. Vous voyez, il y a toujours le blocage de.
Elle se sent pas à la hauteur.
De passer des petits examens, elle veut pas le stress.
Voilà, alors, deuxième question, est-ce qu'elle sait ce qu'elle aurait envie de faire plus tard ?
Ah ben ça, alors là, donc on n'a pas arrêté de lui demander, on a travaillé ça pour le collège, hein, puisque je me doutais que c'était ça qu'on allait poser comme question. Alors on a approfondi deux, trois professions, mais elle nous les a dit pour faire plaisir, mais non, il n'y a rien qui l'intéresse.
Pour le collège, là, en sixième, c'est pas déterminant, hein, c'est pas là qu'on va vous demander, c'est plutôt à la fin du collège. Mais c'est pour savoir si elle a des envies.
Non.
Elle n'a pas d'envie pour l'instant. Bon, en même temps, à 11 ans, ça peut tout à fait être compréhensible. Ce qu'il faut simplement qu'elle arrive à comprendre, c'est que c'est pour elle qu'elle doit apprendre.
Ah,
c'est ni pour vous, ni pour sa mère, ni pour se venger de qui que ce soit.
Oui.
C'est le prix de la liberté. Et le prix de la liberté, quand on est adulte, il se paye au moment de l'adolescence, quand on travaille.
Mmh.
Après, la liberté, c'est la liberté de choisir le métier qu'on aime parce qu'on a fait suffisamment d'études pour ça. Il faut vraiment qu'elle arrive à comprendre ça. Que c'est pas les autres qu'elle punit en faisant ce qu'elle fait, c'est elle-même.
Ah oui.
Et peut-être l'orienter, si c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas scolaire, et si elle aime les chevaux, peut-être commencer à l'orienter vers quelque chose qui pourrait être dans le domaine équestre. Pas en compétition, dans son boulot, vous voyez.
Ah ben on en a parlé, et elle connaît tous les métiers, elle a dit non, j'aime pas ça, non, je veux pas faire ci, non, je veux pas faire ça. J'ai dit il va bien falloir que tu réfléchisses à quelque chose quand même. Et puis, bon, moi, j'ai déjà parlé à ma fille. Je crois qu'on va faire de cycle long. Hein, faudra faire un cycle court. Mais je dis, c'est la sixième et la cinquième. Et je me demande si on va y arriver, quoi. Parce que si les notes sont lamentables, je me demande si elle ne va pas devoir quitter l'établissement.
Attendez, n'anticipez pas trop. Ne lui mettez pas non plus une pression énorme. Vous en mettez vous-même déjà et ça vous fait du mal.
Ouais.
Et elle aussi, je pense que du coup, elle y réagit mal. Est-ce qu'elle a vu ou est-ce qu'elle voit une psychothérapeute, une pédopsie ?
Ah, elle m'a dit, parce que quand il y a des soucis, hein, quand elle me faisait des crises d'angoisse pas possibles, je veux dire, pour les devoirs du mercredi, j'en ai pas parlé à la maman pour pas lui faire peur, mais elle me faisait des crises d'angoisse terribles. Je dis, mais écoute, on va être obligé de voir un psy. Elle me dit, je ne veux pas voir de psy, de toute façon, je ne parlerai pas.
Oui. Donc ça veut dire que même petite, elle n'en a jamais vu quand il y a eu tous ces va-et-vient d'hommes dans la maison. Elle n'a jamais été accompagnée pour mettre des mots là-dessus, quoi.
Bah, à un moment donné, j'ai dit à ma fille, là, si, elle en a vu par deux fois quand j'ai demandé à ma fille. Et à chaque fois, elle a vu deux psys qui étaient différents, totalement différents, qui proposaient des psychothérapies totalement différentes. Les deux lui ont dit la même chose. Mais c'est pas elle qui a besoin, c'est vous, madame.
C'est ça, mais oui, mais forcément, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas.
Et donc, bah, alors là, ça arrêtait net. Ma fille ne veut pas voir de psy ouais. du tout.
Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous avez deux enfants. C'est-à-dire que votre petite fille, c'est devenu votre fille. Et que vous la portez à bout de bras ouais. comme vous portez votre fille à bout de bras, ou comme vous l'avez portée. Ouais. Et là, il y a peut-être une chose à travailler là-dessus. D'autre part, et Carole vous envoie un message et j'allais y venir, effectivement, elle dit la meilleure solution, ce serait peut-être de prendre quelqu'un d'extérieur au cercle familial pour faire ses devoirs. Un étudiant ou une étudiante, vous savez, qui viennent... Parce que quand ils sont entre eux, ça marche beaucoup mieux aussi.
Bah oui.
Et c'est quelque chose qui est souvent proposé dans les collèges. Est-ce que dans son collège, il y a un lycée aussi ?
Oui, il y a un lycée.
Donc il y a des élèves plus grands qui sont plus matures et qui proposent ça, de l'aide aux devoirs. Ça ne coûte pas grand-chose. Et la relation n'est pas la même. D'abord, c'est quelqu'un qui, émotionnellement, est à l'extérieur de tout ça. Et puis, elle peut y trouver comme une grande sœur ou un grand frère, un petit peu, vous voyez. Peut-être elle aura plus envie de se livrer.
Oui.
Ça peut être un très bon conseil. Et puis, pardon, allez-y.
Là, je me suis dit, bon, avec mon compagnon et puis donc mon ami, et on dit, moi, je voulais pas trop, parce que je voulais pas trop mettre tout d'un coup... De changement, j'ai dit bon ben on va la mettre à l'étude et j'ai dit je ne ferai que vérifier si c'est fait.
Non mais c'est la livrer elle-même encore, la laisser à l'étude.
Ben oui voilà.
C'est l'évitement encore ça, et pour elle et pour vous. Par contre pour le bien de tous, je pense que il faudrait que vous preniez un peu de recul.
Ouais.
Parce que vous êtes en train de vous épuiser, là je le sens moralement.
Ouais. Ouais.
Vous n'avez pas la réponse à tout et c'est normal, ce n'est pas votre rôle. Il y a un rôle qui n'est pas du tout joué par sa maman, parce que sans aucun jugement, mais parce que visiblement, elle n'y arrive pas. Et vous essayez de combler tout. Vous voulez être à la fois sa maman, sa grand-mère, son professeur.
Oui, voilà, oui.
Et
oui.
C'est épuisant, et ce n'est pas votre rôle.
Oui.
Et je pensais à autre chose en plus, de l'aide au devoir par un ou une ado. Si elle ne veut pas faire de thérapie, c'est toutes les thérapies plus rapides, comme le coaching ou l'hypnose. Parce que ça, les ados, ils aiment bien. Ce ne sont pas des moments où on va leur demander de parler, de raconter leur vie, puisqu'elle vous l'a dit, de toute façon, je ne parlerai pas.
Ouais.
Mais en thérapie rapide ou en coaching, elle peut s'ouvrir bien plus facilement, avec des techniques qui sont plus ludiques. Oui.
Alors, je sais que cet été, j'ai consulté, parce que j'avais un mal de dos, j'ai fait
comme par hasard.
Un soin plantaire. Parce que donc j'arrivais pas
de réflexologie, c'est ça.
Voilà, de réflexologie. Et puis je sais pas pourquoi je suis venue à parler de ma petite fille, parce que je voyais des soins énergétiques, etc. et tout. Et en réflexologie plantaire, on m'a conseillé une dame qui faisait les enfants et qui disait vous pouvez amener votre petite fille pour lui dire que ça sera des massages, et donc ça sera pas du tout
tout à fait.
Ce sera pas du tout de la psy. Et puis donc apparemment cette dame là est très douée pour décoincer des trucs et pour parler, pour faire parler. Alors je me suis dit j'essaierai peut-être, parce qu'en plus ma petite fille adore les massages.
Évitez de lui dire ça ne sera pas de la psy, ne prononcez même pas le mot. Ne prononcez pas le mot qui va lui faire penser à ça.
Voilà,
dis-tu, est-ce que ça te ferait plaisir que je t'offre un massage ? Moi, j'ai vécu ça, c'est vraiment génial. C'est une super idée, ça. C'est une super bonne idée.
Je me suis dit, je tenterai bien ça. Voilà.
D'abord parce qu'effectivement, avec la réflexo, elle va dénouer des nœuds physiques et émotionnels. Et parce que comme il y a un tel bien-être, il se crée un lien de confiance qui peut faire qu'effectivement, votre petite fille pourrait avoir envie de lui parler. Ça, c'est une excellente idée, ouais.
Oui, peut-être que ça l'a... Je veux dire que ça la décoincerait, quoi, ça la libérerait.
Et vous avez de la chance, parce que c'est assez rare de trouver une réflexo plantaire qui est spécialiste des enfants. C'est pas courant.
Eh oui, Oui, de toute façon, je pense que c'est pas un hasard. Quand je suis allée de tomber sur ce cabinet où il y avait des tas de praticiens quoi, de thérapie alternative, et je me suis dit, bon, ben.
Et justement, c'est une entrée en matière, c'est-à-dire que si elle, ça suffit pas, elle pourra peut-être vous orienter ou orienter votre petite fille vers ses collègues.
Oui.
Et comme ça ne viendra pas de vous, ça sera plus facile, évidemment.
Alors,
je crois qu'il faut, il faut que vous commenciez à déléguer, vraiment.
Oui. Ah oui, oui, ah bah oui, mais moi je cherche des aides, hein, parce que je dis, moi je peux pas tout faire. Et en plus, tout l'été, je me suis culpabilisée parce que, bon, avec moi, ma fille, c'est des rapports très conflictuels. Elle n'est pas gentille du tout avec moi. Là, elle me met des bâtons dans les roues, etc. Je dis en fin de compte, tu veux plus qu'elle vienne chez moi. Oui, ben en fin de compte, je le regrette, etc. Et tout. Je dis, mais on fait un essai. Et je dis, si l'essai n'est pas concluant, elle reviendra chez toi. Je dis, je ne veux pas te prendre ta fille. Je dis, moi, c'était un cadeau qu'on vous faisait, parce que l'avenue d'un bébé, ça chamboule tout. Et je dis, c'était pour que vous vous posiez. Tu as des soucis de santé aussi. Et ensuite, pour retrouver un travail. Et si au bout d'un an, tout va mieux, et que si la petite, elle veut retourner chez toi, il n'y a aucun souci. Et là, je me suis dit, si jamais ça va au clash, bah, je dis, elle va revenir chez sa maman plus vite, quoi, parce que moi, je culpabilise énormément.
Vous culpabilisez de quoi ? Vous faites tellement de choses, et avec tellement de bonne volonté, avec une intention tellement positive, que je n'arrive pas à voir en quoi vous devriez culpabiliser, alors vraiment.
Ben je culpabilise, je me dis je suis peut-être trop intrusive, j'en fais trop, et c'est pas bon pour ma fille et puis ma petite.
Alors
fille,
que vous en fassiez trop, c'est peut-être le cas, mais parce qu'on vous a pas laissé le choix. Elle est déficiente, votre fille, dans son rôle de maman. Elle est déficiente dans son rôle de fille aussi vis-à-vis de vous. Et du coup, celle qui en paye les pots cassés, c'est la petite, qui a un comportement forcément provocateur. Et celle qui récolte. Et le punching ball dans l'histoire, c'est vous. Donc vous n'avez pas à vous culpabiliser, vous avez fait tout ce que vous avez pu, simplement. Simplement, là, vous arrivez au bout d'un système qui ne fonctionne plus.
Ah oui, oui, ça c'est clair.
Et donc dans ces cas-là, vous faites. C'est très bien ce que vous faites, c'est vous vous posez en disant maintenant, ok, quelle est ma marge de manœuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Puisque ce que j'ai mis en place ne fonctionne plus, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je crois que déjà, vous êtes sur des bonnes pistes. C'est très très bien là, cette histoire de massage qui peut l'amener à d'autres, peut-être d'autres thérapies alternatives. Et puis même simplement celle-là, à se détendre et à s'ouvrir, accepter de lâcher tous ses nœuds, parce qu'elle doit être pleine de frustration, pleine de peur avec tout ce qu'elle a vécu.
Elle est remplie de peur.
Oui, évidemment.
Elle se dévalorise sans arrêt. Alors je me dis, c'est de la provocation de sans arrêt de dire je suis moche alors qu'elle est très jolie. Je suis moche, je suis bonne à rien, je suis nulle en tout. C'en est pénible parce qu'on est sans arrêt en train de lui dire non, c'est fou, arrête. Tu donnes des bonnes raisons pour pas vouloir travailler, pour pas faire d'efforts pour travailler, mais je dis tout ça c'est faux.
Le mal-être, le nœud du problème, il vient de sa maman. Et une fois de plus, ça n'est pas une accusation, c'est que voilà, elle a une vie bancale qui fait qu'elle a pas pu faire assumer ce rôle. Et donc il faut défocaliser sur la petite. Ce ne sont que des conséquences. La vraie cause, c'est pas qu'elle aime pas bosser, qu'elle veut pas bosser, c'est qu'elle cherche sa place. Et elle la cherche de la plus mauvaise manière qui soit, c'est-à-dire en se s'auto-détruisant, en provoquant les mauvaises personnes, celles qui sont là pour l'aimer et l'aider. Et je suis en train de penser, je ne sais pas si vous m'avez entendu en parler un jour, j'ai mis sur ma page Facebook une lettre qui a été écrite par une psychologue américaine qui s'appelle « La lettre que votre ado aurait voulu vous écrire ».
Non, je n'ai pas.
Et si vous la...
je me rappelle pas.
Alors, soit vous allez sur ma page Facebook Sabine Marin, soit vous la trouvez sur Internet. La lettre, le titre exact, je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus si c'est la lettre que votre ado aurait aimé vous écrire ou ne pourra pas vous écrire, mais c'est un message merveilleux. Et ça fait beaucoup de bien de lire ça pour comprendre qu'on n'est pas seul à traverser ces périodes-là difficiles.
D'accord. Ok.
Mais ne vous culpabilisez pas, Patricia, parce que je trouve que c'est déjà, c'est extraordinaire le rôle que vous avez joué dans toute cette histoire. Et vous avez toujours eu le mauvais rôle en plus.
Ah oui.
Personne ne vous dit merci, personne ne vous est reconnaissant.
Ah non, non, ça c'est clair. Non, non, ça c'est clair. Bon, ma petite fille, hein, elle est reconnaissante, etc. et tout. Il y a beaucoup d'amour, mais j'ai pas envie de gâcher nos relations à cause de clash d'école, quoi. C'est ça.
C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de laisser entrer des gens extérieurs maintenant dans ce cercle-là. Pensez vraiment à l'aide d'un étudiant. C'est quand même très chouette pour eux d'avoir un complice un peu de leur, enfin un peu plus âgé mais qui les aide, qui connaît en plus l'école, oui. Ça, c'est très bien. Mm-hmm. Et puis cette thérapeute dont vous me parlez, ça me paraît vraiment une excellente idée.
Ok.
D'accord. Je veux bien que vous me rappeliez dans quelques temps pour me raconter comment ça évolue.
D'accord.
Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, Patricia.
Ok. Merci beaucoup.
Merci et vraiment, ne culpabilisez pas, félicitez-vous au contraire. Vraiment. En tout cas, moi, je le fais.
Merci, Sabine.
Et je vous embrasse très fort, Patricia.
Moi aussi, je vous embrasse très fort aussi.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée, au revoir.
Et c'est déjà le générique de fin. Merci à tous d'avoir été là, d'un côté ou de l'autre du poste. Merci pour votre sincérité, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain soir sur Europe 1 pour une nouvelle libre antenne à partir de 23h. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Au lieu de s'inquiéter de ce qui se passera demain, les hommes feraient mieux de s'interroger sur ce qu'ils font aujourd'hui. Passez une bonne nuit et à demain. Pile 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.